Merci d'écouter RFI. Il est 8h à Paris, 7h à Alger et 6h en temps universel. Tout de suite, c'est le journal de Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
L'apaisement n'a pas fait long feu entre la France et l'Algérie.
Un nouvel épisode de tension diplomatique entre les deux pays. La France rappelle son ambassadeur à Alger pour consultation. On y revient dès le début de ce journal. C'est une victime collatérale dans le bras de fer commercial entre les États-Unis et la Chine. Pékin annonce suspendre les réceptions d'avions Boeing. Nouveau coup dur pour le constructeur américain, nous dira un expert en aéronautique. Autre secteur déstabilisé depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, le secteur scientifique, beaucoup de répercussions, on vous les listera. On sera aussi en Inde pour parler de la vague de chaleur qui frappe le pays, mais aussi des exercices conjoints menés par la marine indienne avec celle de 10 pays africains. Ça se passe en Tanzanie. Michel Polnareff en ouverture du Printemps de Bourges hier soir en France. Il a interprété ses plus grands tubes, il y a de quoi faire. Et puis ça a failli casser, mais ça passe pour le Paris Saint-Germain qui, malgré sa défaite en quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Aston Villa, file en demi. On en parle dans le journal des sports avec Antoine Grenier, juste après cette édition.
On pensait que l'heure était à l'apaisement entre la France et l'Algérie. Ce n'est visiblement déjà plus le cas.
Oui, il y avait pourtant des raisons d'y croire. Un coup de fil fin mars entre les deux chefs de l'État après 8 mois de tension et puis une visite à Alger du chef de la diplomatie française. Ça semblait aller mieux, mais ça repart de plus belle. 12 fonctionnaires français ont dû quitter le territoire algérien hier, expulsés par les autorités. Alors la France a répliqué en expulsant à son tour 12 agents algériens. Bonjour Charlotte Thurien-Tomaca.
Bonjour.
À Paris va plus loin et rappelle son ambassadeur pour consultation.
Oui, alors qu'il avait laissé manœuvrer jusque-là le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, c'est bien d'Emmanuel Macron qu'est venue la riposte française ce mardi, car la France a choisi de franchir une étape supplémentaire en annonçant le rappel à Paris, vous l'avez dit, pour consultation de l'ambassadeur de France à Alger, en plus de l'expulsion miroir de 12 ressortissants algériens. Le président français a pris la plume ce mardi pour exprimer sa consternation après ce nouveau brusque coup de froid entre les deux pays, alors qu'il y a 15 jours, un appel entre Emmanuel Macron et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune avait réchauffé les relations après des mois de crise. Pour l'Élysée, je cite, les autorités algériennes prennent la responsabilité d'une dégradation brutale de nos relations bilatérales, tout en appelant Alger à faire preuve de responsabilité pour reprendre le dialogue. Dans son communiqué de presse, l'Élysée explique également que l'expulsion de ces Français méconnaît les règles élémentaires de nos procédures judiciaires et la qualifie d'injustifiée et d'incompréhensible.
Et Charlotte, les réactions politiques sont-elles nombreuses ?
Eh bien, pour l'heure, non. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui était à Alger la semaine dernière, vous l'avez dit, a expliqué dans un post sur X ce mardi qu'en réponse à leur décision injustifiée et incompréhensible, nous expulsons 12 agents algériens et rappelons pour consultation notre ambassadeur, le dialogue toujours, mais pas à sens unique. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui a joué un rôle dans ce dossier, a expliqué hier soir « Je prône la fermeté depuis des mois. J'ai toujours pensé qu'avec l'Algérie, nous devions établir un rapport de force. » Julien Odoul, pardon, député du Rassemblement National, a également posté sur X, je le cite, « trop tardif, trop faible ». Arnaud Le Gall, député La France Insoumise, « top à l'escalade provoquée par les provocations multiples du ministre de l'Intérieur ». Mais dans la journée, les réactions politiques devraient se multiplier tant le sujet enflamme la classe politique.
Merci Charlotte Thurien-Tomaca. Alors va-t-on vers une rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ? On va poser la question tout à l'heure à notre invité Afrique du jour, le franco-algérien Lies Djebaili. Il dirige en France le collectif Algérie droit devant, un entretien à écouter juste après le journal de 6h30 en temps universel.
La balle est dans le camp de la Chine, assure la Maison Blanche.
Et c'est la Chine qui a besoin d'un accord avec les États-Unis et non l'inverse, ajoutent les autorités américaines après un nouvel épisode dans la guerre commerciale qui oppose les deux pays. Il y avait déjà les 145% de droits de douane supplémentaires imposés par Washington sur de nombreux produits chinois. Pékin avait répliqué avec de son côté 125% de taxes sur les marchandises américaines importées. Et voilà maintenant que la Chine suspend la livraison sur son sol des avions américains Boeing qui n'avaient pas besoin de ça, nous dit Loïc Tribault-Laspierre, expert en aéronautique.
La Chine est en train de porter un coup terrible sur une entreprise qui est par excellence souveraine aux États-Unis. Si la Chine décide désormais de dire « ben voilà, nous considérons qu'il est inapproprié d'acheter des avions Boeing et de revoir un petit peu ce qui avait été commandé », ça risque, je dirais, d'aggraver plus significativement encore la situation pour Boeing. Boeing se porte très mal. Boeing ne sait pas délivrer à l'heure actuelle des produits du futur. Il a de la peine, tout simplement, à retrouver les talents qui sont partis dans la période du Covid. Le fait que la Chine envoie un coup de boutoir et dise « on n'en veut pas », ça risque de créer une débandade phénoménale chez Boeing.
Loïc Tribault-Laspierre, également délégué général du Centre d'études et de prospectives stratégiques. Il était interrogé par Nicolas Feldman. À noter que la Chine annonce la nomination d'un nouveau patron pour les négociations sur le commerce, Li Qianggang, qui a déjà occupé plusieurs postes dans ce ministère du commerce. En attendant, selon Donald Trump, en prenant cette mesure contre Boeing, Pékin s'est rétracté sur, je cite, un contrat énorme, un énorme accord avec le constructeur américain.
Donald Trump qui en a pris pour son grade hier à Chicago.
Lors d'une conférence consacrée au système américain des retraites, à la tribune, son prédécesseur Joe Biden, premier discours public depuis qu'il a quitté le bureau ovale. Ça ne fait pas encore 100 jours et cette nouvelle administration a fait tant de dégâts et de destruction, a dénoncé l'ex-président. Il a notamment accusé Donald Trump de vouloir offrir d'énormes baisses d'impôts aux milliardaires en attaquant la sécurité sociale à coups de hache.
Et autre secteur fragilisé depuis le retour de Trump, la science.
La fermeture de laboratoires entiers, licenciements massifs, contrôle des champs de recherche aussi. Les effets sont massifs et nombreux aux États-Unis, mais pas seulement d'ailleurs. Dans le monde entier, de nombreux partenariats avec des institutions américaines semblent menacés, Simon Rosé.
Diversité, climat ou encore pollution et même femmes, ces termes font partie des sujets de recherche bannis par les équipes de Donald Trump. À cela s'ajoutent les milliers de licenciements, souvent de jeunes chercheurs. Et dernier exemple en date, le projet de budget de la Maison-Blanche prévoit une suppression pure et simple du centre de recherche de la NOAA, l'agence américaine d'études des océans et de l'atmosphère, un centre mondial de référence. Les conséquences ne se limitent pas qu'aux frontières des États-Unis. Les scientifiques américains des agences fédérales n'ont plus le droit de communiquer sans autorisation avec leurs collègues étrangers. Les emails restent désormais sans réponse. Les échanges entre les États-Unis et le reste du monde sont pourtant massifs et Washington joue un rôle central dans plusieurs programmes aujourd'hui remis en cause. De nombreuses bases de données utilisées par les chercheurs du monde entier dans des domaines allant de l'astrophysique à la santé en passant par le climat sont alimentées par des instruments américains et sont hébergées aux États-Unis. Elles restent aujourd'hui encore disponibles mais le seront-elles encore demain ? Inimaginable il y a quelques mois encore, la question se pose désormais.
Simon Rosé du service environnement de RFI. Au Soudan, le général Hamdan Daglo Diémétti annonce la mise en place d'un gouvernement rival. Un message sur son compte Telegram publié hier soir alors que le pays entrait dans sa troisième année de guerre entre les FSR et l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan. Le général Diémétti annonce aussi une nouvelle monnaie et une nouvelle carte d'identité. Une vingtaine de pays et d'institutions internationales se sont réunis à Londres hier pour évoquer ces deux années de guerre au Soudan. Les participants ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et permanent et souligner la nécessité d'empêcher toute partition du pays.
5 ans après le Covid-19, le monde se prépare à une nouvelle pandémie.
Oui, alors pas de menace spécifique pour le moment, mais les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé anticipent. Ils ont approuvé hier un texte visant à améliorer la préparation et la lutte contre les pandémies à venir. Ça a été compliqué, les négociations ont duré plus de 3 ans. Le texte prévoit notamment la création d'un système d'accès aux agents pathogènes, ainsi que la livraison rapide à l'organisation de 10% de tous les vaccins produits en cas de nouvelle pandémie. Reste quand même à passer l'étape du vote à l'Assemblée Générale de l'OMS, ce sera le mois prochain.
Il fait chaud en Inde.
Très chaud, trop chaud même, presque 40 degrés par endroit en ce mois d'avril avec des vagues de chaleur de plus en plus précoces. Une situation très éprouvante pour les plus vulnérables. Correspondance à New Delhi de Léa Ojal.
Tous les jours, Lakshmi prend place à l'angle d'une rue animée de New Delhi. Devant elle, une casserole, une bouteille de gaz et le parfum du chai, ce thé indien aux épices qu'elle prépare inlassablement. Mais sous le soleil brûlant, cette activité devient éprouvante. Lakshmi est constamment exposée à la chaleur.
J'essaye de me protéger de la chaleur. Je bois beaucoup d'eau, je reste à l'ombre, proche des arbres et dès qu'il y a du vent, je m'assois en face. Je suis dépendante du vent et chez moi, j'utilise le ventilateur.
En Inde, le changement climatique représente un défi de taille. Plus de la moitié de la richesse produite dans le pays repose sur des travailleurs exposés à la chaleur, souvent sans réelle protection. Lakshmi, elle, fait ce qu'elle peut pour préserver sa santé.
Pour me protéger des grosses températures, je veille aussi à manger des aliments simples, avec peu d'huile et peu d'épices, comme le masala. Comme ça, j'évite de tomber malade.
L'été s'annonce particulièrement éprouvant. Les services météo indiens prévoient des vagues de chaleur intenses avec des températures bien au-dessus des normales de saison. Léa Ojal, New Delhi, RFI.
l'Inde, dont la marine est en Tanzanie en ce moment.
Avec celles venues de 10 pays africains. Pour encore 2 jours, elles y mènent des exercices conjoints pour renforcer leur coopération maritime et leur lutte contre la piraterie dans la région. C'est un format assez inédit que ces exercices. Et l'objectif pour l'Inde, eh bien, c'est de s'affirmer dans l'océan Indien, notamment face à la Chine. Les explications depuis Bangalore de Combasta.
Les exercices ont commencé le 13 avril dans le port de Dar es Salaam où l'Inde a dépêché un destroyer, un navire de débarquement de chars et un patrouilleur. On compte aussi 4 navires de la marine tanzanienne ainsi qu'une unité navale spéciale du Kenya dédiée aux interceptions. Participent à ces manœuvres l'Afrique du Sud, les Comores, Djibouti, l'Érythrée, Madagascar, Maurice, le Mozambique et les Seychelles. Après des entraînements portuaires, la phase en mer s'ouvre ce mercredi avec des exercices anti-piraterie, de recherche et sauvetage et des opérations héliportées. Abhishek Mishra est chercheur associé au MPIDSA, un centre d'études du ministère de la Défense indien. Il en explique l'importance pour New Delhi.
La côte est de l'Afrique fait partie de notre stratégie indo-pacifique. Notre principal objectif dans la région est la sûreté de sa marine marchande. Les attaques houthis de l'année dernière nous en ont rappelé l'urgence. C'est aussi garantir l'approvisionnement énergétique de l'Inde qui est dépendante de pays africains pour les hydrocarbures. Enfin, une très importante diaspora indienne est installée ici.
Cette opération inédite devrait être reconduite l'année prochaine dans un autre pays d'Afrique de l'Est. Combasta, Bangalore, RFI.
En France, c'est le festival de musique qui donne traditionnellement le top départ de la saison.
Et tradition respectée hier avec le début du Printemps de Bourges dans le centre du pays. C'est Michel Polnareff qui a acté l'ouverture de cette 49e édition. Edmond Sadaka y était et attention, nostalgie au programme.
Avec sa chevelure blonde, ses lunettes noires iconiques et coiffée d'un chapeau de cow-boy blanc et bleu, Michel Polnareff a entamé à Bourges une longue tournée, peut-être sa dernière. Pendant 90 minutes, il a revisité depuis son piano la plupart de ses standards devant 5000 personnes en transe.
Je trouve qu'il a bien conservé sa voix pour son âge.
On retrouve une partie de notre existence, quoi. C'est ça qui est magique.
C'est notre jeunesse. C'est notre jeunesse.
Non, je suis un petit peu déçue. Il a même pas dit au revoir à la fin, quand même. On part pas comme ça.
Avec les saints et les assassins.
Pour s'offrir ce concert d'ouverture, le Printemps de Bourges n'a pas hésité à casser sa tirelire malgré une situation financière fragile. Boris Vedel est le directeur du festival.
Y a-t-il un prix pour la légende?
Oui, c'est sûr, il ne fait pas partie des moins chers. Maintenant, c'est vrai qu'en bientôt 50 ans de printemps, il n'avait jamais chanté et joué du piano à Bourges.
Dans la foulée de sa tournée, Michel Polnareff va sortir dans quelques jours un nouvel album intitulé « Un temps pour elle ». Il contient 8 chansons d'amour de facture classique entre piano et grandes envolées orchestrales. Edmond Sadaka, Bourges, RFI.
Le Printemps de Bourges, c'est jusqu'à samedi. Les organisateurs espèrent au moins 250 000 personnes, comme l'année dernière d'ailleurs.
Merci Gaëtan Plenet, 8h13 à Paris. On passe au journal des sports d'Antoine Grenier. Et du football à la une, Antoine, les quarts de finale retour de Ligue des Champions. Paris inquiété, Paris secoué, mais Paris qualifié.
Et cette question, Andréane, vous savez comment on dit remontada en anglais?
Non,
moi non plus, mais Paris a bien failli la prendre à ses dépens. Aston Villa a failli jouer un très très mauvais tour aux Parisiens. Le PSG qui menait 2-0 après une demi-heure sur la pelouse de Birmingham et qui s'est effondré pour finir battu 3-2, qualifié seulement grâce à son succès 3-1 du match aller.
Arrêtez de me demander des choses, Antoine, s'il vous plaît. Les joueurs de Luis Enrique qui peuvent en tout cas se consoler en disant que Barcelone lui aussi a souffert.
6 ans que les Blaugrana n'avaient pas atteint ce stade de la compétition. Il aura fallu souffrir pour y retourner avec une défaite 3-1 face à Dortmund. Le matelas 4-0 du match aller n'était finalement pas si confortable que ça. Mais désormais, les Catalans veulent voir plus loin, à l'image du défenseur Jules Koundé.
On est content, on est encore en lice sur tous les tableaux, on est en demi-finale. Je pense qu'on fait les choses bien globalement. Juste ce soir, on aurait pu faire mieux. On fait partie des favoris, bien évidemment. On est content d'être passé. On verra contre qui on jouera en demi-finale. Le PSG, ils sont de l'autre côté du tableau. Donc on verra.
Jules Koundé chez nos confrères de Canal+.
Pour le Barça, en demi, ce sera l'Inter de Milan ou le Bayern
Bayern de Munich.
Avantage aux Italiens, vainqueur 2-1 du match aller à l'Allianz Arena. Pendant que dans l'autre quart de retour, le Real Madrid, tenant du titre et 15 fois vainqueur de la Ligue des Champions, est condamné à l'exploit. Les coéquipiers de Kylian Mbappé, battus 3-0 sur le terrain d'Arsenal la semaine dernière et qui doivent donc marquer 4 buts de plus que les Gunners pour aller en demi-finale. Mission impossible ou presque. Et pourtant, cette remontada, tout Madrid veut y croire, notamment le milieu de terrain anglais Jude Bellingham.
I think what makes us confident is the quality we have, the history of the club.
Ce qui nous rend confiance, c'est la qualité de cet effectif, l'histoire du club, les supporters qui savent aussi se transcender dans une soirée de Ligue des Champions comme celle-là. On a le sentiment que même en étant passé complètement à côté à l'aller, on est bizarrement toujours vivant. Normalement, après un match aussi raté, c'est terminé. Mais là, non. Peut-être que si on relève notre niveau, qu'on est un peu plus attentif aux qualités des joueurs d'Arsenal, on peut revenir dans le jeu. On n'est pas complètement stupide, ça ne sera pas facile non plus. Mais on croit en nous.
Jude Bellingham avec Thomas Saint-Léger. Real Madrid-Arsenal, coup d'envoi 19h, temps universel, une rencontre à suivre dans la nouvelle soirée spéciale du service des sports de RFI.
Waouh, en basket pour finir, les play-in, les matchs barrages de la NBA, ça passe pour Orlando et Golden State.
Le Magic d'Orlando, large vainqueur des Hawks d'Atlanta 120-95, de quoi permettre aux coéquipiers de Cole Anthony de se qualifier pour le premier tour des playoffs NBA où ils affronteront le champion en titre, le Celtic de Boston. Autre qualifié pour la phase finale, les Golden State Warriors qui ont dominé les Grizzlies de Memphis 121-116. En playoff, Steve Curry et Jimmy Butler croiseront le fer avec les Rockets de Houston.
Antoine Grenier, merci à vous. Aujourd'hui, l'économie sur RFI. Bonjour Stéphane Jeunesse.
Bonjour Andréane.
On s'intéresse ce matin avec vous au secteur du luxe en pleine turbulence. Les cours boursiers des géants Kering, Hermès et LVMH ont passé leur journée d'hier dans le rouge. Cela fait suite à la publication des résultats du premier trimestre 2025 de LVMH. Justement, des résultats qui ne sont pas très bons, disons-le. Entre 2 et 3% de perte de chiffre d'affaires pour le groupe qui détient Louis Vuitton, Dior, Moët & Cie ou encore Tiffany sur les 3 premiers mois de l'année.
Oui, le géant français du luxe dirigé par Bernard Arnault, habitué aux bons résultats, vit un moment pour le moins complexe, en particulier sa division phare, la mode et la maroquinerie, qui fait d'ailleurs briller Louis Vuitton ou encore Dior, a vu ses ventes chuter, moins 5%. Là où c'est d'autant plus dur pour LVMH, c'est que les analystes attendaient une légère hausse sur ce secteur, ce n'est visiblement pas le cas. Résultat, vous le disiez Andréane, l'action du premier groupe mondial du luxe a dévissé en bourse, cela a entraîner tout le secteur dans sa chute. Il s'agit là d'un vrai coup de froid.
Et l'explication de cette tendance, eh bien, elle tient en un prénom et un nom, Donald Trump.
Car je ne vous apprends rien, depuis son retour à la Maison Blanche, il a relancé sa guerre commerciale avec une certaine agressivité. Les droits de douane pleuvent sur les importations, y compris sur le champagne, les cosmétiques, les montres et les sacs. Face à une telle situation, le consommateur américain dépense moins, et quand on sait que le marché outre-Atlantique est le premier débouché mondial des marques du luxe, on comprend l'impact des mesures de Donald Trump. D'après une étude publiée ces derniers jours par la société de recherche Bernstein, 32% des dépenses mondiales du luxe se font aux États-Unis, 24% en Chine. À ces seuls deux pays, cela en représente plus de la moitié.
Donc la situation aux États-Unis ne fait pas les affaires du secteur.
Non, pas vraiment, car elle est en première ligne dans les mesures commerciales de Donald Trump. Pourtant, un de ses représentants, Bernard Arnault, est un proche du président américain. Il tente d'ailleurs en personne de dissuader l'administration Trump d'appliquer jusqu'à 200% de taxes douanières sur les vins et spiritueux français. Mais à quel prix? Il était justement à Washington à la fin du mois de mars. Le groupe LVMH, comme d'autres, d'ailleurs comme L'Oréal par exemple, ils poursuivent leur stratégie pour produire sur le sol américain, comme le souhaite Donald Trump.
Mais alors, vous nous disiez, Stéphane, ici même il y a quelques mois, que le secteur attendait une reprise américaine pour compenser l'effondrement de la demande chinoise.
Oui, c'est vrai, car on le rappelle, la consommation chinoise, eh bien, elle s'effondre. Selon le cabinet McKinsey, la demande sur le marché du luxe s'y est contractée de 18 à 20% l'an passé, c'est beaucoup. Sauf que la situation américaine n'est pas aussi bonne que l'avaient prédit les analystes. Bien au contraire, tous revoient leurs estimations au niveau mondial à la baisse. Toujours d'après la société Bernstein, le secteur pourrait perdre 2% cette année, là où on s'attendait à une croissance de 5%, plus 5% il y a encore quelques mois. Alors pour continuer d'exister, Andréane, les marques devront peut-être revoir leur chaîne d'approvisionnement et repenser leurs prix.
Stéphane Geneste pour notre rendez-vous aujourd'hui, l'économie. Merci à vous Stéphane, il est 8h19 à Paris. Tout de suite, on continue de parler des décisions nombreuses de Donald Trump avec notre invité international. Et ce matin, en ligne avec Arnaud Pontus, Jean Charest, ancien Premier ministre du Québec, ancien vice-premier ministre du Canada et membre du Conseil pour les relations Canada-États-Unis.
Bonjour Jean Charest.
Bonjour.
Il y a deux semaines, Donald Trump promettait des droits de douane exceptionnels au reste du monde. Une semaine plus tard, et après une dégringolade des bourses mondiales, ces tarifs entraient en application avant d'être suspendus pour 90 jours. On en est là, ou à peu près. Entre nous, Jean Charest, est-ce que vous y comprenez quelque chose?
Ah ben nous, depuis le temps où on connaît Donald Trump, on a plutôt observé sa méthode. Et là, il faut dire qu'il s'est vraiment dépassé la semaine dernière parce que le 2 avril, il fait son annonce de ce qu'il appelait Liberation Day. Nous, on s'attendait à ce qu'il fasse une annonce suivie d'une suspension, suivie d'une négociation. Mais là, il a décidé d'être un peu téméraire et d'aller de l'avant et de s'attaquer au monde entier, ce qui, je pense, était une erreur grave de son côté. Tant que M. Trump est dans une relation bilatérale, un à un avec le Canada, l'Europe, avec le Mexique, il est gagnant parce que le rapport de force joue pour lui.
Oui.
Mais la première erreur, c'est de s'en prendre au monde entier. Et là, soudainement, il découvre qu'il est débordé et que la riposte risque d'arriver de tous les côtés et que l'économie américaine, très rapidement, se met à se dégrader. Et là, ben, ça l'a forcé à prendre un pas de recul.
Oui, c'est comme ça que vous lisez les événements. Il a vu la réaction générale, vu l'effondrement de la bourse, et s'est dit, oh là là, c'est dangereux, il faut que je fasse machine arrière.
Ben, la semaine dernière, il y a trois choses qui se sont passées qui sont très rares dans les marchés. D'abord, l'effondrement de la bourse, d'une part. Deuxièmement, le dollar américain a perdu de la valeur contre les monnaies une panier de monnaies un peu partout sur la planète. Et la troisième chose, c'est l'augmentation des taux d'intérêt sur les obligations 10 ans. Alors là, il a réussi à conjurer les trois et l'effet combiné l'a fait reculer et lui fait, je pense qu'il réalise qu'il ne peut pas suspendre les lois de la physique éternellement et qu'il doit finalement prendre un pas de recul. L'autre chose qui est plutôt intrigante, c'est l'attaque sur la Chine. Alors là, tenez-vous bien, l'impact sur l'économie américaine, ce sera dramatique. Pour les consommateurs américains en particulier, l'augmentation des prix des objets de consommation sera très, très importante. Et là-dessus aussi, honnêtement, je m'attends à ce qu'il prenne un pas de recul aussi.
Ouais, vous pensez qu'il va aussi reculer sur la Chine. On est dans la phase de négociation ou est-ce que cette suspension, c'est une façon de ne finalement plus imposer ces barrières douanières, sans le dire?
Ben, il va nous laisser avec un minimum de 10%, mais en même temps, si j'avais deviné aujourd'hui, lorsque nous arriverons au délai de 90 jours, il prolongera d'un autre délai de 90
jours.
Ah oui,
d'accord. Vous pariez là-dessus. Vous pariez là-dessus.
Mais l'autre, comment peut-il négocier avec le monde entier? Alors, dites-vous ceci, il va pas conclure des accords de libre-échange avec chaque pays, qui sont des accords complexes, qui exigent des mois, des années. Nous, au Canada, on a beaucoup d'expérience là-dedans. Des années de négociations. Il va plutôt faire ce que lui appelle des deals. Alors, une entente, je vais baisser les tarifs, vous allez me donner ceci, cela en échange. C'est à ça que ça va ressembler. Mais tout ça crée un chaos indescriptible. Ça devient illisible pour les marchés. Ils ne savent plus où ils s'en vont. Et là, et en plus, il nous revient tous les jours. Vous savez, il nous invente littéralement un nouveau narrative. Il dit, oh, mais tout ça était planifié, vous savez.
Oui, bien sûr, c'était un plan.
Ah, non. Il essaie de justifier comme si tout ça était un grand plan exécuté par un génie qui s'appelle Donald Trump. Il n'y a rien de ça qui est vrai. C'est de l'improvisation pure, de l'incompétence. Tout ça dépasse l'entendement. Malheureusement, pour nous, Cependant, les conséquences sont graves.
Bien sûr.
Et sur notre économie, sur notre vie, la même chose est vraie pour l'Europe.
Jean Charest, vous êtes membre du Conseil pour les relations Canada-États-Unis. Ça doit être un drôle de job en ce moment. Faut avoir des nerfs d'acier pour faire ce travail.
Ben, il faut être patient, mais on essaie du mieux possible de préparer le Canada pour tous les scénarios. Et le Canada a pris une position assez ferme sur la question des tarifs de répondre et de faire la réplique. Notre expérience à nous apprend qu'il faut répondre à la force avec de la force. Et que si vous ne le faites pas avec M. Trump, c'est le rouleau compresseur. Il va vous passer sur le corps et il n'a aucun respect pour ceux qui sont à ses yeux, à lui, des faibles. Et nous, on a fait un choix assez important dans un monde où il n'y a que de mauvais choix en passant. Nous, en choisissant d'imposer des tarifs, on se fait mal à nous, vous
oui,
savez.
Oui, tout le monde a y perdre. Il n'y a que des mauvais choix, oui.
Ben oui, mais c'est une logique infernale. Et nous, on a choisi de faire la réplique et je pense que c'est la bonne réponse.
Oui. Les États-Unis et le Canada sont des alliés, des pays amis, des voisins. Est-ce que vous vous sentez d'une manière ou d'une autre trahi par l'ami américain?
Les Canadiens sont très, très remontés. Très remontés. Alors, ils ont tout ce discours sur le 51e État.
Oui, parce qu'il n'y a pas que... Oui, pardon, Jean Charest, parce qu'il n'y a pas que la bataille commerciale, vous le dites. Oui, il y a cette menace d'annexion. Trump qui voudrait que le Canada devienne le 51e État américain. Vous lui dites, te fatigue pas, Donald, ça n'arrivera jamais, ça?
Oui, ben, non, ben, on lui dit, c'est pas la peine, et non, merci.
Et, non, merci, mais, oui.
Non, merci. Nous, on est occupés, on a autre chose à faire, à gouverner notre pays. Il a même remis en question les frontières entre le Canada et les États-Unis dans les conversations qu'il a eues avec le premier ministre Trudeau. Alors là, on observe tout ça, puis on se dit, oh là là, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu ailleurs, de nier. Et pour nous, c'est comme si on niait qu'on existait. Mmh. Et alors, les Canadiens sont très remontés là-dessus. Le tourisme a planté complètement. Les déplacements à la frontière, les déplacements par avion sont en très forte diminution. Dans les magasins, les Canadiens cherchent à acheter des produits. Si vous êtes au Québec, qui viennent du Québec ou du Canada, mais boudent tout ce qui est identifié comme étant des produits qui viennent des États-Unis. Et en même temps, nous faisons très attention parce qu'il y a une différence entre Trump et le peuple américain. Et nous sommes, on est chanceux, on vit dans un quartier sur le plan planétaire qui est quand même intéressant. On a de la chance. Et le peuple américain, c'est des gens qui sont généreux, qui sont bons, ce sont des amis et des alliés. Faut faire la différence entre le peuple américain et Donald Trump. C'est pas la même chose.
Jean Charest, les élections fédérales au Canada, elles ont lieu le 28 avril prochain, dans moins de deux semaines maintenant. Est-ce que Trump, ce qu'il dit, ce qu'il fait, va continuer à être au cœur de cette campagne électorale?
Alors, Donald Trump a totalement dominé la campagne électorale fédérale. Il est le principal acteur. Il a défini l'enjeu de la campagne, ce que nous appelons la question de l'urne, en anglais « the ballot question ». Alors, la question de l'urne, c'est quoi? C'est la même chose chez vous. Quelles questions les Canadiens auront en tête au moment où ils feront leur choix? Et la question de l'urne au Canada est la suivante. Qui des chefs des partis politiques est le mieux placé pour nous défendre contre Donald Trump? C'est le seul vrai grand sujet de la campagne électorale. Ce sont maintenant les libéraux fédéraux qui mènent dans les sondages. Et si la tendance se maintient, ils ont de très bonnes chances de former un gouvernement majoritaire le 28 avril prochain.
Et on suivra ça, bien évidemment, sur RFI. Merci Jean Charest.
Au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup.
L'ancien premier ministre du Québec, ancien vice-premier ministre du Canada et membre du Conseil pour les relations Canada-États-Unis, Jean Charest, il répondait à Arnaud Pontus, entretien à retrouver sur le www.rfi.fr. À la une, à cette heure-ci de notre site internet, guerre commerciale de point Pékin, suspend toutes les livraisons d'avions Boeing. On y revient dans le journal à 9h. L'information africaine sur RFI dans une minute.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
La leptospirose, une maladie bactérienne transmise par les rats.
Demain.
Allergie, une part croissante de la population mondiale est concernée.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Marjorie Bertin.
La réparation, c'est le titre du nouveau film de Régis Varnier. Une épopée culinaire qui nous conduit de la Bretagne aux confins de l'Asie. Et c'est aussi l'histoire bouleversante de Clara qui cherche son père. Régis Varnier nous en parle avec Julia De Nunez qui joue Clara.
Sur le Pont des Arts, du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
La Mastroc, Jarring Effects et RFI Talent présente
longue plaine bordée d'étoiles
Zar électrique.
Accompagné par les génies du Niger.
Découvrez Koyo, le premier album du trio franco-marocain de Marseille. Disponible en vinyle, CD et sur toutes les plateformes.
Mise en silence, tourne-volée, avance, cherche les cieux dans les sens.